L'apôtre Paul, hein, qui est en route vers Rome, on connaît un petit peu son histoire, et puis c'est son dernier voyage missionnaire, bien sûr, qui va le conduire à Rome, on connaît tous son récit. Et finalement, il y a un beau parallèle, bien sûr, ce parallèle qui symbolise notre vie ici-bas, une traversée de la vie dans l'océan de ce monde. Et pour cela, et en tout cas pour moi, étant attentif à ce texte, je me suis aperçu, comme quoi, que finalement, Paul va utiliser trois bateaux. Moi, dans mon imaginaire, je pensais qu'il y en avait au moins deux, puisqu'il y en avait un qui avait fait naufrage et puis était reparti avec un autre. Mais on va voir que finalement, il y a trois bateaux dont Paul a eu besoin pour partir de Césarée et puis aller jusqu'à Rome. Et finalement, ces trois bateaux vont représenter pour nous bien différentes étapes de vie qu'on traverse tous un jour ou l'autre, bien entendu. Et on va considérer, bien sûr, bien ce matin, ces trois sortes de navires. Alors, acte 27, versets 2 à 5, pour le premier bateau, voilà ce qu'il est dit. Quand l'embarquement pour l'Italie a été décidé, on a confié à Paul et quelques autres prisonniers un dénommé Julius, officier de la cohorte impériale. Nous sommes montés sur un bateau d'Adramite qui devait faire voile vers les côtes de l'Asie et nous sommes partis. Aristarque, un Macédonien de Salonique, était avec nous. Le jour suivant, nous avons abordé à Sidon. Julius, qui traitait Paul avec bienveillance, lui a permis d'aller voir ses amis et de recevoir leurs soins. Partis de là, nous avons logé l'île de Chypre parce que les vents étaient contraires. Après avoir traversé la mer qui mène la Cilicie, la Pamphylie, nous sommes arrivés à Myra, en Lycie. Là, ayant trouvé un bateau d'Alexandrie, qui allait en Italie, l'officier nous y a fait monter. Voilà donc un premier bateau, et j'ai appelé ce premier bateau le « Tout va bien ». Est-ce que vous connaissez ce bateau, le « Tout va bien » ? Voilà, hein, c'est le premier bateau. On connaît tous ce bateau parce qu'on l'emprunte de temps en temps dans nos vies. Ces moments de vie où, comme pour l'apôtre Paul, eh bien, tout va bien. Voilà, c'est le « Tout va bien ». Une première journée, là, de traversée de Césarée à Sidon, Paul va y voir des amis, il va y recevoir des soins, certainement en prévision de sa visite à Rome, on va lui donner des vêtements, peut-être de la nourriture ou quelques médicaments, je ne sais pas, mais en tout cas, il va prendre un temps, là aussi. Julius, le centenier qui les surveille, eh bien, est bienveillant avec eux. Alors, il y a quelques vents contraires, bien entendu, mais ici, eh bien, les marins connaissent, ils ont l'habitude de ces vents contraires, hein. Ils savent aller au plus près de la côte pour les éviter, etc. Puis ils remontent sans problème et ils arrivent donc. Tout va bien, tout va bien. La traversée est bien et tous les voyants sont ouverts. Et puis finalement, bien, c'est de bon augure pour la suite. Ça commence tellement bien que Paul et les autres ne peuvent pas penser que ce qui les attend va bouleverser leur vie. Mais pour l'instant, tout va bien. Et il y a donc une certaine confiance qui s'installe. Parmi l'équipage, parmi tous ceux qui sont là, ces personnes, tout va bien. Vous connaissez ces moments dans nos vies où tout va bien, hein, où on se dit « heureusement que je suis là ». J'ai déjà raconté ce moment où on était en Écosse, enfin on prenait le bateau pour revenir en France, on le prenait de l'Écosse, et puis on avait une petite cabine là pour traverser, donc c'était la nuit, et les enfants avaient froid dans la chambre de bateau, là. Et j'aurais dit, écoutez, il n'y a pas de problème, papa est là, tout va bien aller. Je suis là. Donc je prends le téléphone de bord, et puis, dans un anglais extrêmement bien cadré, « Yes, it's the chamber numéro je ne sais pas quoi, we need cover, it's cold in the room. » Enfin, vous voyez un petit peu le dialogue, le haut niveau, quoi. Et alors, je comprenais bien que mon interlocutrice ne me comprenait pas. Ça, j'avais bien compris. Alors, j'ai essayé tout mon vocabulaire que j'avais appris, sans succès, jusqu'au moment où j'ai dit, mais c'est pas vrai, elle comprend rien, celle-là. Et là, une petite voix m'a dit, mais monsieur, vous pouvez essayer aussi en français. Ouais, tout va bien, papa, tout va bien. Alors, quand la dame est venue amener ses couvertures, papa, il n'était pas là. Hein, il était caché dans les toilettes, je ne sais pas où, parce que papa, non, pas, tout va bien, je suis là. On connaît, hein, ces moments. On se souvient de Samson, Vous vous souvenez de Samson, hein, juge 16, « Je m'en sortirai comme les autres fois ». Tout allait bien pour Samson. Hein. On connaît là aussi son récit, la manière dont il a joué avec le feu. Et puis il a perdu, hein, c'est le cas de le dire. On le sait comment on vient Delila. C'est quand même curieux ce que dit l'Écriture. Il est dit ceci, qu'elle va le harceler jusqu'à la mort. Samson, c'est il écrit ça. Elle va tellement le harceler qu'à un moment donné, il va lui révéler, etc., etc. Jacques 4,13 nous dit ceci, « N'ayez pas une trop haute opinion de vous-même. » De vous-même. Ce matin, Dieu est bien entendu favorable à ce que nous ayons des traversées avec le « tout va bien ». Ça, c'est quelque chose, au contraire. Hein, Dieu veut notre bien. Et il y a des moments dans nos vies où tout va bien. Et Dieu n'est pas jaloux. Dieu ne nous en veut pas que tout aille bien. Ce serait un comble. Le défi pour nous, se situe sur la manière dont on va vivre, on va réagir à ces moments. Excès de confiance ou reconnaissance à Dieu ? Orgueil ou humilité ? C'est ça. Dans ces moments de tout va bien, ah, heureusement que je suis là, heureusement c'est un petit peu quand même grâce à moi que, ou alors Seigneur, merci pour ce moment de tout va bien. Merci pour ta grâce, merci pour ta reconnaissance, merci Seigneur parce que... Et finalement, bien, c'est un défi. Et on voit que dans cette traversée, bien, il y a eu cet excès de confiance, certainement, tout va bien, tout va bien. Alors il y a un deuxième navire, alors on ne va pas relire, hein, c'est Actes 27, 6, 41, mais après le tout va bien, il va embarquer de Myra donc jusqu'à Malte, et là j'ai intitulé ce deuxième bateau, c'est le « Rien ne va plus ». Rien ne va plus. Bon, vous qui êtes habitués peut-être aux jeux de casino, à ce qui paraît, quand on lance la boule, on dit « Ah, faites vos jeux, rien ne va plus hein, ». J'en sais rien si vous y allez au casino, etc. Mais c'est ce qu'on voit dans les films, en tout cas. Hein, faites vos jeux, rien ne va plus, dispère, manque, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce qu'ils racontent, mais rien ne va plus. Acte 27, on peut lire versets 13 à 14. « Un léger vent du sud s'est mis à souffler, et se croyant maître de leur projet, ils ont levé l'ancre, et ils ont logé près l'île de Crète. Mais bientôt, un vent violent, qu'on appelle Eurakilon, s'est déchaîné. » Pourtant, Paul a bien prévenu le pilote et le capitaine du navire. Hein, vous vous rappelez de cet avertissement. Et il dit, mais je vois que la navigation ne va pas faire sans dommage pour le bateau et aussi pour les hommes. On reviendra sur cette pensée. Et on entre ici dans des phases de vie où malgré des avertissements, malgré des conseils, malgré des alertes, on a décidé malgré tout de persévérer. On décide malgré tout de ne pas tenir compte de la vie des autres. On décide malgré tout, bien, comme il est dit, se croyant maître de notre destin, de notre dessein, eh bien de poursuivre. On se dit que les choses vont s'arranger. Même parfois, on se dit, oh, finalement, le conseil de la parole de Dieu, c'est pas pour moi. Parce que Paul avait averti. Et alors, eh bien, on est assez grand. Et puis finalement, eh bien, on verra bien. Et puis, finalement, à la fin, on reconnaîtra que j'ai raison. On reconnaîtra que j'ai bien fait hein, d'aller jusqu'au bout dans ce projet. Et il peut arriver parfois aussi qu'on va prendre ce genre de bateau. Le rien ne va plus. Le rien ne va plus. Proverbe 19, 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de pensées, mais c'est le dessein de l'Éternel qui s'accomplit. Et puis le proverbe 16, 9, « Le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui affermit ses pas. » Et ici, dans notre texte, il y a quand même plusieurs expressions eh bien, qui vont marquer ce changement radical de bateau. On passe du « tout va bien » au « rien ne va plus ». En quelques moments, etc. Alors, les expressions, on les connaît. Hein. Un vent de tempête, Eurakilon se déchaîne. Le navire est entraîné à la dérive. Violemment secoué par la tempête, plus de soleil, plus d'étoiles pendant plusieurs jours. On avait perdu toute espérance d'être sauvé. Et peut-être ça nous rappelle ce matin bien une épreuve, une situation qu'on a vécue ou qu'on est en train de vivre. La violence et la soudaineté de l'épreuve. Hein, vous le savez, il ne faut pas grand-chose parfois. On peut avoir un beau commencement de journée, puis suivi d'un coup de téléphone, quelqu'un qui frappe à la porte, etc., ou un courrier. Et puis en un instant, c'est la tempête. En un moment, on est dans ce bateau où rien ne va plus. L'impossibilité de s'en sortir. On essaye, mais on est submergé par ce qui nous arrive. Les dégâts qui sont causés aussi. Il y a une souffrance physique, morale, psychologique, spirituelle qui va s'installer. Et puis, on a la perte de tous nos points de repère. On a l'impression que c'est une sensation, je ne sais pas si ça s'explique en psychologie, mais que la terre s'ouvre sous nos pieds ou que le monde s'écroule. Et puis, on est complètement déstabilisé. Et puis, on peut se résigner. On peut être convaincu que jamais on ne s'en sortira. On est convaincu que jamais on ne pourra s'en sortir. Et c'est dans ces moments, c'est vrai, qu'on réalise notre fragilité. Notre fragilité, nos limites. Et puis, c'est peut-être aussi dans ces moments que Dieu permet pour qu'on puisse aussi bien reconnaître nos erreurs, nos échecs, voire nos péchés, et de revenir à Dieu, dans un autre bateau, qu'on prendra tout à l'heure, après ce « rien ne va plus ». En tout cas, Jacques nous dit ceci, 4:14, « Vous êtes une vapeur. » Vous vous rendez compte ? Vous vous rappelez de vos cours de physique, l'état de l'eau. L'eau est gazeuse, est solide et liquide. Vous vous rappelez ça, la vapeur. Hop, alors, ça... Ça condense un petit peu, mais c'est rien la vapeur. Alors, si vous voulez une autre image, c'est 1 Pierre 1,24. Toute chair est comme l'herbe et toute gloire comme la fleur de l'herbe. L'herbe sèche, la fleur tombe. Voilà. On a le choix ce matin pour nos vies, entre une vapeur ou une fleur sèche qui tombe. Voilà. Bon. Mais, ce matin, la conséquence dans notre histoire, eh bien, pour le rien ne va plus, c'est qu'il va finir par échouer. Ce bateau va finir par échouer. Et il va se disloquer sous la puissance, bien sûr, des vagues. Et il faudra donc un autre bateau pour arriver à Rome. Parce que le but de Dieu pour Paul, c'est qu'il ne s'échoue pas à Malte, mais c'est qu'il aille à Rome. Et ce matin, le but de Dieu pour chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on s'échoue dans la tempête qu'on est en train de vivre, dans ce bateau qu'on a emprunté peut-être même malgré nous, le rien ne va plus, mais qu'on puisse prendre un autre bateau pour continuer la route fluviale avec lui. Alors c'est ce dernier bateau que l'on va détailler un peu plus ensemble pour conclure. Dans Actes 28, versets 11 à 13, il nous est dit ceci. Donc, Malte se passe, etc. On reviendra un peu dessus. Et Actes 28, 11. Après un séjour de 3 mois, nous avons embarqué sur un bateau d'Alexandrie qui avait passé l'hiver dans l'île et qui portait pour enseigne les Dioscures. C'est intéressant ça, les Dioscures, j'ai fait une petite recherche, ce sont des jumeaux à l'époque, c'est Pollux et puis Castor, il me semble, ou Castor et Pollux. C'était des divinités qui étaient censées protéger les marins. Et je me dis quand même, Paul, après ce qu'il vient de vivre, la catastrophe, il aurait pu dire, oulala, mais moi je ne monte pas dans un bateau comme ça. Qui est voué à ses faux dieux. Non, je vais en entendre un autre, etc. Mais ici, on voit que Paul, peu importe, j'allais dire, le moyen que Dieu va utiliser, même si les marins ont dévoué ce bateau aux dieux de la mer pour les protéger, ce n'est pas un problème pour Paul. Ne tombons pas parfois dans de fausses superstitions religieuses. Dire, oh là là, oh non, ça... Je pense que quand nous ne cherchons pas les choses, quand les choses au travail, etc., sont ainsi, eh bien, Dieu nous garde, Dieu nous protège, on ne va pas devenir superstitieux. Vous savez que le numéro 666 dans les J'aime l'Éternel n'existe pas. On passe du 665 au 667. Et si un jour, dans un culte, je vous avais demandé de chanter le 666, est-ce que vous l'auriez chanté ? Il faut obéir au pasteur, et tu te décharges. Mais il y a des moments, on est dans une fosse. Un jour, quelqu'un m'a dit, son enfant était à l'hôpital, et sur la porte de la chambre de l'hôpital, parce que c'était un hôpital pour les enfants, il y avait une photographie, enfin, ou une image. Alors je ne sais plus de qui, de quel, c'était un dragon, je ne sais pas quoi, ouais. Et cette sœur m'a dit, je vais aller prévenir tout de suite le service pédiatrique, il m'enlève ça parce que mon gosse est dedans. Et Seigneur, quand même, je dis, ne faites pas ça, ne faites pas ça. On va vous prendre pour, excusez-moi, pas quelqu'un de très équilibré. C'est pas la photo du dragon sur la porte de la chambre de votre enfant qui va agir sur la vie de votre enfant. Dieu est au-delà. Ne tombons pas parfois dans de fausses superstitions religieuses. Parce que, et là, ça n'a pas dérangé Paul de prendre ce bateau. Ça ne l'a pas dérangé. même s'il était voué, bien sûr, lui, il savait en qui il avait cru. Alors on continue. De là, en suivant la côte, nous avons atteint Régio. Le lendemain, le vent du sud s'est levé et en 2 jours, on a fait la traversée à Pouzol. Là, on a trouvé des frères qui nous ont invités à passer 7 jours avec eux, etc., etc. Voilà donc le dernier bateau que Paul va prendre pour l'amener à Pouzol. Et moi, eh bien, j'ai appelé ce dernier bateau le Dieu peut tout. Le Dieu peut tout. On pourrait dire si le bateau, le tout va bien, symbolise finalement le bateau de l'homme, la confiance excessive qu'on peut avoir parfois en nous-mêmes. Si le rien ne va plus, eh bien, il symbolise le bateau des épreuves, de la vie. Le Dieu peut tout, lui, c'est le bateau de la grâce de Dieu. C'est le bateau de la grâce de Dieu. Et c'est ce bateau, ce matin, que Dieu nous invite de plus en plus à fréquenter. Le bateau de la grâce de Dieu, le bateau, le Dieu peut tout. Parce que dans notre texte, finalement, la dernière étape du voyage, elle se fait très très rapidement. Si vous regardez une carte, ça se fait très très rapidement. Et il a fallu reconnaître que Dieu seul peut tout, après un tel naufrage, après une telle tempête, eh bien de porter donc son serviteur et puis tous ceux qui l'accompagnent donc vers Rome. Parce que pour profiter de cette dernière étape, eh bien il faut se rappeler de quelle manière Dieu a agi donc dans ce moment de tempête. Et ce matin, pour nous réfugier dans ce bateau de la grâce de Dieu, dans ce bateau du Dieu peut tout, eh bien, rappelons-nous, soyons assurés des promesses que Dieu nous fait lorsque nous sommes dans l'épreuve. Dans le psaume 107, on ne va pas relire ce psaume, mais vous relirez le verset 23 à 30, il est question justement de ces marins qui sont en pleine tempête. On les voit dans le psaume, ils montent, ils descendent. Europa Park à côté, c'est la rigolade là, du psaume 107. Et alors, eh bien, il est dit que dans leur angoisse, ils ont crié à l'Éternel et Dieu les a secourus, Dieu leur a répondu. Dans leur angoisse. Quelle autre expression on peut avoir dans de tels moments? Alors, quelques rappels ce matin dans ce bateau de la grâce dans lequel nous sommes tous ce matin invités à rester. D'abord, la première pensée, ce que Dieu dit, il l'accomplit. C'est peut-être très simple à rappeler ce matin. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce que Dieu dit, il l'accomplit. Rappelons-nous quand même l'appel de l'apôtre Paul, Actes 9:15. C'est Ananias qui entend « Va, parce que cet homme est pour moi un instrument de choix, afin de porter mon nom devant les nations et les rois, devant les fils d'Israël. » Il y a déjà comme un appel global. Il est question d'Israël, mais il est question aussi des rois. Et puis ça se précise, Actes 23:11. « Prends courage, car de même que tu as rendu témoignage de moi à Jérusalem, il faut aussi que tu rendes témoignage à Rome. » Ah, là c'est beaucoup plus précis. Et Dieu est en train de dire à Paul, tu iras à Rome, quoi qu'il arrive. Ce que je te dis, je vais l'accomplir. Et puis c'est encore plus précis, en pleine tempête. On pourrait dire quand même, Paul, ça fait 2 fois que Dieu te parle, une fois très précisément qu'il te dit que tu vas aller à Rome. Et là, dans ce moment de tempête, il sent que tu oublies un petit peu. J'aimerais bien m'y voir, en tout cas dans une tempête. Oui, il y a des moments où même si on a des promesses que Dieu nous a faites, parce que la tempête est si forte, parce qu'on est tellement déstabilisé, eh bien, on a oublié. Le cerveau s'est mis en pause. Alors, qu'est-ce que Dieu va nous dire de son trône de grâce? Il dit, ah, quand même, Didier, t'as oublié ce que je t'ai dit Non. Même dans nos tempêtes, Dieu va se manifester. Et en pleine tempête, Dieu va dire à Paul, sois sans crainte, Paul, il faut que tu comparaisses devant César. Amen. Et ce matin, eh bien, nous pouvons être rassurés dans ce bateau de la grâce parce que ce que Dieu dit, il l'accomplit. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et Dieu nous rappelle ce matin eh bien, que toutes celles et ceux qui se confient en lui, eh bien, qui sont appelés par lui, personne ne peut les ravir de sa main. Voilà, le texte m'a précédé. Ça, c'est mieux que l'intelligence artificielle. Nous savons que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Et puis, on connaît toute la suite jusqu'au verset 39. Rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, etc., etc. Psaume 139. Ce matin, vous n'êtes pas dépourvu dans votre épreuve. Vous n'êtes pas, même si vous êtes déstabilisé, Dieu vous tient dans sa main. J'aime bien le psaume 139, verset 16, « Quand je n'étais qu'une masse informe. » Comment, moi, je n'étais qu'une masse informe ? Pourtant, je me trouve si beau, si belle aujourd'hui. Et tu me dis que j'étais qu'une masse informe. Seigneur, quelle humilité ! Tes yeux me voyaient et sur ton livre étaient tous inscrits le jour que tu avais fixé avant qu'aucun d'eux n'existe. Waouh ! Le mystère de Dieu pour nous. Dieu connaissait. On n'était qu'une masse informe. Eh bien, il nous connaissait déjà. Deuxième pensée, rien n'est plus précieux pour Dieu que la vie de chacun d'entre nous. Rien n'est plus précieux pour Dieu que la vie de chacun d'entre nous. Dans Actes 27, au verset 22, Paul va dire ceci, « Je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne perdra la vie, seul le navire sera perdu. » Il y a une autre traduction, « Il n'y aura parmi vous aucune perte d'âme. » Et ce matin, bien, on sait que nous sommes la pépite, on est ce qu'il y a de plus précieux aux yeux de Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons une valeur inestimable. Et le reste pour Dieu, excusez-moi, mais c'est rien. Mais rien n'est plus précieux pour Dieu que votre vie, que ma vie. Amen. Nous sommes une créature si merveilleuse. Et ce matin, bien, Dieu nous rappelle cette réalité, parce qu'effectivement, bien, le navire est parti en miettes, mais ces 276 personnes ont été toutes sauvées. Rien n'est plus précieux. Votre vie est précieuse entre les mains du Seigneur. Et puis, troisième pensée, Dieu entend les supplications de ses enfants. Ça, c'est très intéressant, vous le savez, vous l'avez déjà expérimenté. Mais que se passe-t-il entre Acte 27, 10 et Acte 27, 24. Je vous lis Acte 27, 10. C'est Paul qui dit ceci. « Je vois que la navigation ne se fera pas sans péril, sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour la navire, mais encore pour les personnes. » Wow. À ce moment-là, on ne sait pas trop ce que veut dire Paul, mais d'après ce que je comprends, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui vont y passer. En tout cas, il y a des personnes qui vont être en péril. Et là, quelques versets plus tard, Actes 27, 24, la parole de Dieu dit ceci, « Voici, Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » Et puis, 34, c'est Paul, « Je vous exhorte à prendre de la nourriture, car c'est nécessaire pour votre salut. Personne d'entre vous ne perdra un cheveu de sa tête. » Même les chauves seront sauvés dans ce texte. Mais en tout cas, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Alors, moi, c'est ma petite interprétation, vous en ferez ce que vous en voudrez. Entre le moment où Dieu avertit de Paul qu'il va y avoir une tempête, qu'il y a un problème avec le navire, qu'il va y avoir un problème avec l'équipage, eh bien, je pense, alors dans cet équipage, rappelons-nous, il y a des soldats, il y a des prisonniers, il y a l'équipe missionnaire de Paul, il y a quelques passagers peut-être, il y a les membres d'équipage, ça fait beaucoup de personnes de différents milieux, de différents endroits, de différentes cultures, peut-être de différentes langues. Mais je pense qu'à partir de ce moment où Paul reçoit cette pensée qu'il va y avoir du dommage, eh bien je pense que Paul va intercéder pour chacun des membres de l'équipage, pour chacun des prisonniers, pour chacun des soldats, pour chacun peut-être des passagers qui sont là, pour chacun d'équipe missionnaire, en demandant à Dieu de leur faire grâce. Seigneur, voilà, il va y avoir une tempête, tu m'as averti, le bateau, on s'en moque, mais sauve ces personnes, fais leur grâce. Qu'ils puissent être sauvés, qu'ils puissent te connaître, qu'ils puissent te découvrir. Et je pense que ce matin, bien, vous le savez, Dieu entend nos supplications. Dieu entend nos supplications pour nos familles, pour nos enfants, pour nos proches, pour nos amis. Et on a lu ce passage mardi dans l'étude biblique, à Éphésiens 6, 18, « Priez en tout temps par l'Esprit avec toutes sortes de prières et de supplications. » La persévérance. C'est comme si notre responsabilité, eh bien, dans notre prière personnelle pour nos proches, pour nos cercles d'amis, pour nos enfants, Dieu nous disait, eh bien, je t'accorde la grâce de tous ceux qui sont dans ta famille. Je t'accorde la grâce de tous ceux qui sont avec toi dans ton lieu de travail. Je t'accorde la grâce de tous ceux qui sont dans ton voisinage. Je t'accorde la grâce de tous ceux qui te font du mal. Je t'accorde cette grâce. Prie pour eux, intercède pour eux. Et moi, je veux m'en occuper. Seigneur, tu m'as prévenu qu'il y aurait peut-être une tempête, un moment difficile dans mon entreprise, dans mon voisinage, dans telle famille. Mais je ne veux pas me résigner. Je dis, bon, c'est comme ça. Seigneur, accorde-moi la grâce. et plaise à Dieu qu'il puisse nous dire, eh bien, je t'accorde la grâce, j'entends ta prière, j'entends ta supplication. Et ce matin, on pourrait tous témoigner déjà, hein, de ce que, déjà nous-mêmes, on est le fruit de la supplication de beaucoup, hein, qui auraient pu là aussi, eh bien, oh, ben, c'est pas grave, hein, il veut rien entendre, c'est un jeune, il fait ce qu'il veut, qui se débrouille. Non, eh bien, Paul va intercéder en pleine tempête. Vous avez déjà intercédé en pleine tempête? Je ne sais pas comment il a fait Paul, hein. Ça monte, ça descend, il n'y a plus de point de repère, etc. Mais Paul, il prie, il s'accroche. Et là, il ne prie pas pour lui-même tellement, mais certainement pour tous ceux en disant, fais leur grâce. Et puis, on conclut encore deux pensées. Dieu va placer dans la tempête, il va placer sa parole au centre de la tempête. Moi, je suis émerveillé dans ce texte. Quand on relit le récit, on s'aperçoit que le personnage central à ce moment-là, ben, ce n'est plus le pilote, ce n'est plus le centenier, ce n'est plus le patron. Peut-être qu'il a débarqué avant, le patron, moi, j'en sais rien. Mais c'est Paul. C'est Paul qui est le personnage central. C'est bien lui qui exhorte tout le monde à reprendre courage, à reprendre de la nourriture. C'est bien la parole de Dieu qui va se manifester en pleine tempête. C'est bien cette parole que Paul va donner et qui va donner des indications. Paul, par exemple, va faire séparer la chaloupe de ce bateau. Les marins, ils ont compris, hein. Les marins, ils savent très bien que cette tempête, elle est destructrice, qu'ils vont tous y passer. Alors, en douce, ils cherchent à prendre la chaloupe et puis à s'échapper, en disant, mais on va essayer par nous-mêmes. Et Paul leur dit, mais attention, hein, si cette chaloupe, elle est à l'eau, avec ces marins dedans, ils vont mourir, je ne garantis pas leur sécurité. Donc, ce centenier, ce Romain, il va couper, et cette chaloupe va partir, mais ceux qui vont rester dans le bateau seront sauvés. C'est Paul qui désormais, excusez-moi l'expression, mène la barque. C'est plus le centenier, c'est plus le capitaine, etc. Mais c'est bien Paul. Dieu va placer sa parole au centre de la tempête. Et ce matin, plaise à Dieu que ce soit une parole pour quelqu'un. Dieu place sa parole au milieu de votre tempête. Dieu place sa parole au milieu de votre tempête. Afin que vous puissiez vous y accrocher, afin que vous puissiez bien la saisir. Hein, et ainsi, eh bien, voir quelque chose d'extraordinaire. Ésaïe 55, versets 9 à 11, hein, nous rappelle cette belle parole en résumé. « Ma parole ne retourne pas à moi sans avoir produit son effet. Hein, comme la pluie et la neige descendent des cieux, elle n'y retourne pas sans avoir arrosé. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. » Nous sommes ce matin dans le bateau de la grâce de Dieu, dans le Dieu peut tout, dans le Dieu peut tout. Et dans le bateau du Dieu peut tout, dans le bateau de la grâce de Dieu, Dieu met au centre de nos tempêtes sa parole. Il n'a que ça comme moyen, mais c'est tout. Sa parole qui est créatrice, hein, sa parole qui soutient. Et puis, la dernière pensée, Dieu se sert de l'échouage pour accomplir son œuvre. C'est un mystère, comment Dieu, à travers un échouage à Malte, et on connaît la suite du récit, les barbares qui habitent, hein, c'est les autochtones et qui habitent cette île, sont étonnés de voir Paul s'en sortir. Ah, c'est un dieu, etc. On sait. Alors il fait un bon feu de camp pour réchauffer tout le monde, et puis là, qu'arrive-t-il quand il va prendre du bois? Il y a un serpent, une vipère, quelque chose, qui s'accroche. Et on a l'impression que Paul regarde ça comme ça, tranquille. Il secoue un petit peu, et puis c'est tout. Et tout le monde attend à s'il meurt, bien sûr. Et quand on le voit qu'il continue, alors c'est encore pire, hein, son image. Mais Paul est assez humble, bien sûr, on le sait, pour gérer ce genre de situation. En tout cas, même, et là encore, même dans ton épreuve, peut-être la plus terrible, Dieu est capable de se servir de toi, de ce que l'on considère comme un échec, pour glorifier son nom, pour changer le mal en bien, pour retourner la situation et pour glorifier le nom de Jésus. Ça vous est déjà arrivé, hein, un jour, dire, oh, aujourd'hui, j'ai pas envie de témoigner, d'ailleurs avec ce que j'ai dit, avec ce que j'ai fait, avec ce que j'ai raconté, avec mon comportement, Seigneur, je préfère raser les murs. Sauf que là, peut-être, il y a eu des moments comme ça où, en rasant les murs, on les a tellement bien rasés qu'on a croisé quelqu'un qui rasait aussi les murs, de la même manière. Et Dieu s'est servi de nous dans ce moment où on n'avait vraiment pas envie, on n'avait pas à cœur, on n'était pas disposé, on reconnaît que ce n'était pas notre comportement habituel. Eh bien, Dieu s'est servi quand même de ces deux rase-murs, deux rase-bottes, pour que l'un puisse partager sa foi à l'autre. Dieu est grand, Dieu est miséricordieux. Alors, je ne dis pas qu'il ne faille pas régler nos problèmes, hein, ce n'est pas ça que je dis, mais que même dans des cas d'échec, de tempête, Dieu est capable. Et je termine avec cette incroyable histoire de Joseph. Hein, on en parlait encore à quelques-uns, je crois que c'est mardi. Vous connaissez l'histoire de Joseph. Hein. Joseph, au départ, c'est un jeune qui enthousiasme. Il a un rêve de Dieu qui va s'accomplir, c'est extraordinaire. Je pense qu'il y a une sorte de partage naïf avec ses frères, avec son père. Il est tellement content. Je ne sais pas s'il y a de l'orgueil. À voir. Mais en tout cas, lui, il reçoit un rêve de Dieu, etc. Et il dit, ouais, c'est super, je vais dominer sur tout le monde. C'est bien. Hein. C'est sûr que le père et puis les frères l'ont mal pris. On est bien d'accord. Bon, mais c'est quand même un rêve de Dieu. Bien. Alors, on connaît la suite, hein, on va vouloir le tuer, bon, il est sauvé in extremis, il passe, il arrive en Égypte, etc., maison de Potiphar, paf, il se retrouve en prison, on l'oublie, enfin bon, vous voyez tout le parcours, et puis arrive ce qui doit arriver, la famine sur Canaan, l'Égypte qui a son blé, et là, Joseph qui est en responsabilité. Et quand il voit ses frères, on connaît également la manière dont le père meurt, etc., et puis ses frères se disent, oh là là, mais ça y est, le père est mort. L'autorité familiale est morte. Le père est mort. Alors là, c'est fini. Joseph va nous prendre en grippe. Donc ils vont le voir. Et là, Joseph, alors c'est vrai, des années et des années après, hein, il y a eu un cheminement pour vivre ce plein pardon. Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Mais Dieu l'a transformé en bien. Ça veut dire que Joseph, dans son histoire personnelle, il inclut quand même la direction, la volonté de Dieu. Vous vous rendez compte ? Mes frères ont voulu me tuer. Mes frères m'ont fait prisonnier. Mes frères m'ont vendu, m'ont expédié, etc. Il arrive quand même, après des années, à intégrer que, malgré tout, Dieu était dans l'histoire. Wow. Il a fallu quand même qu'il fasse un travail sur lui, hein. Il a fallu que pendant quand même quelques années, à mon avis, eh bien, il y ait une relation avec Dieu. Mais il en arrive là. Vous aviez médité de faire du mal contre moi. Dieu l'a médité en bien afin d'accomplir ce qui arrive aujourd'hui et de sauver la vie d'un peuple nombreux. Et de sauver la vie, même dans les épreuves les plus profondes, Dieu peut en changer en utilisant bien sûr les conséquences pour bénir ceux qui nous entourent. Amen. Et ça, c'est le bateau de la grâce. C'est le bateau du Dieu peut tout. Alors on conclut, Marc 4, 35, 41, vous connaissez ce passage, là aussi, hein, c'est quand Jésus va dire à ses disciples, passons sur l'autre rive, et on connaît là aussi ce qui va se passer, hein, mais dans ce texte ici, c'est intéressant, Jésus dit, passons sur l'autre bord, passons à l'autre bord. Il ne leur dit pas, passez sur l'autre rive. C'est vrai qu'à un moment donné, il leur a dit, allez-y, je vous rejoins. Mais même quand il a dit ça, Jésus les a rejoints et a monté avec eux dans la barque. Mais ici, ce qui est intéressant à nous rappeler ce matin, c'est que finalement, eh bien, dans la barque de la grâce de Dieu, dans la barque du Dieu peut tout, eh bien, Jésus est avec nous. Jésus est avec nous. Alors c'est vrai, il peut sembler parfois que Jésus ne réponde pas comme on voudrait. Hein, il dormait dans une tempête, Jésus. Il faut le faire quand même. Ça veut dire qu'il était vraiment, vraiment fatigué. Et même dans ce moment, eh bien, on va pouvoir l'interpeller. Mais ce matin, mon frère, ma sœur, dans vos tempêtes, dans vos difficultés, eh bien, rappelons-nous, même quand il sent qu'on va toucher le fond, qu'on va couler, Jésus est dans la barque avec nous. Amen. Jésus est dans la barque avec nous. Alors, peut-être que ce matin, quelqu'un est sur ce beau bateau d'où tout va bien. J'oserais dire, profitez-en. Ça va pas durer. Non, je dis pas ça. Je dis, profitez-en, profitez. Dieu n'est pas contre. Simplement, bien, exprimez votre reconnaissance pour ce temps de traversée où tout va bien. Soyons reconnaissants, soyons remplis de joie. Seigneur, merci parce qu'au moment, tout va bien. Au niveau familial, au niveau du travail, au niveau du quartier, etc. Tout va bien. Et je te remercie. N'ayons pas un excès de confiance. Peut-être que ce matin, bien, au contraire, on est dans rien ne va plus. Dans le rien ne va plus. Alors pour le rien ne va plus, qui va échouer, parce que ça, ça va arriver, eh bien, Dieu prévoit aussi le bateau de la grâce, le Dieu peut tout, le bateau de la grâce de Dieu. Amen. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il dit, il l'accomplit. Parce qu'il placera toujours au centre de nos tempêtes, eh bien, sa parole. Parce que, eh bien, il est celui qui nous fait grâce continuellement. Amen. On peut prier quelques instants, afin que ce matin, bien sûr, soyons pleinement rassurés, même si la barque bouge un peu, eh bien, Jésus est avec nous. Amen. Seigneur, quelle grâce encore ce matin de pouvoir, ensemble, nous approcher de ce trône de la grâce. Te bénissons, Seigneur, parce que ce que tu avais dit à Paul, le jour de son appel, peut-être qu'il n'avait pas bien compris, eh bien, cela va se réaliser plusieurs dizaines d'après. Il ira à Rome. Et nous bénissons ton nom parce que ce que tu veux pour chacun d'entre nous, c'est la même chose, être avec nous au quotidien pour nous mener à bon port vers ce Canaan céleste, vers cette Jérusalem céleste. Ici-bas, Seigneur, nous traversons des moments difficiles. Ici-bas, nous avons des moments aussi de paix, de calme. Mais quoi qu'il en soit, nous sommes pleinement rassurés parce que tu es toujours avec nous. Nous prions ce matin pour des bien-aimés qui sont dans ce bateau du « tout va bien ». Et nous sommes reconnaissants pour cela, Seigneur, que ces frères et sœurs en profitent, qu'ils se réjouissent, qu'ils te bénissent et qu'ils puissent être fortifiés, renouvelés dans leur foi, dans ces moments de facilité, dans ces moments de bénédiction. Nous te prions pour cela au nom de Jésus. Et puis il y a des bien-aimés qui sont dans ce bateau du « rien ne va plus ». Et nous prions là aussi pour que leur âme soit renouvelée, soit fortifiée. Que ta parole à nouveau soit placée au milieu de leur tempête. Qu'ils puissent simplement reconnaître, Seigneur, que ce que tu dis, tu l'accomplis. Et que tu as un plan de salut. Que tu as un plan, Seigneur, pour qu'ils puissent sortir de cette situation et prendre ce bateau du Dieu peut tout, du Dieu de la grâce. Merci, Seigneur, de bénir ces bien-aimés, de les faire sortir de leur tempête sans point de repère, avec une conviction que tout est perdu, savons que ta parole est vivante et qu'elle ne retourne pas à voir sans avoir produit ton effet. Au nom de Jésus, bénis ces bien-aimés ce matin, qu'ils soient fortifiés, qu'ils soient renouvelés, afin qu'ils puissent, eux aussi, comme Paul, eh bien, prendre et être assurés de cette barque dans laquelle tu te tiens. Merci Jésus. Amen.